8h42 sur France Inter. Mais qui sont les messieurs qui viennent de prendre place à cette table, Pierre Veil ?
Laurent Geoffrin, le directeur de Libération. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et Christian Macarian, directeur délégué de la rédaction de L'Express. Bonjour.
Bonjour
Christian.
Pierre.
C'est le journal de la semaine, les événements marquants. Bien sûr, François Hollande à la télévision jeudi soir. Le président a reconnu à mi-mandat des erreurs, notamment sur le chômage, mais a affirmé se cramponner face aux épreuves et marteler sa volonté de réformer la France jusqu'au terme de son mandat en 2017. Vous a-t-il convaincu, Christian Macarian ?
Ça n'est pas vraiment le sujet. Je ne veux pas éluder votre question, mais je m'interroge franchement sur l'opportunité de ce genre d'initiative en matière de communication. Voilà un homme indiscutablement sympathique, certainement très compétent et dont nous savons tous ceux qui l'ont approché, que c'est un homme très intelligent et très cognitivé. Il a une très bonne connaissance du pays. Qui se livre à un exercice dans lequel, au fond, pour tout résumer, on lui demande de s'élever. Et il s'abaisse. On lui demande de monter sur la montagne et il descend dans l'arène. Il y a donc, à mon avis, une contradiction fondamentale au départ en matière de communication, dans la démarche même et la façon dont François Hollande va percevoir cet exercice. Donc le résultat, de mon point de vue, il est tout ce qu'on en a dit, j'ai rien à ajouter. Mais ça confirme la sensation dominante que cet homme est tombé de cheval et qu'il n'arrive plus à y remonter.
Laurent Geoffrin ?
Moi je suis plutôt minoritaire sur cette affaire parce que je l'ai trouvé plutôt bon. J'ose à peine le dire. Enfin, je le dis doucement, je le trouvais plutôt bon.
Vous êtes d'accord avec Nicolas Bétou, hein, parce qu'il l'a dit tout à l'heure,
ah bon
avant vous. Oui.
Ah bon, non, mais tant mieux, pour une fois.
Et vous l'avez écrit, Laurent, cette semaine.
Et je l'ai écrit. Voilà. Alors, évidemment, les gens, si j'ai vu le sondage, il y a un sondage dans le Parisien qui est négatif.
Sondage Odoxa pour le Parisien, voilà, ouais. Et télé, 78% des sondés ne l'ont pas trouvé convaincant.
C'est à moitié surprenant, dans la mesure où il a défendu son bilan, et que ce bilan, il n'y a pas de résultat. Donc, évidemment, l'émission est jugée à travers le bilan, et le jugement ne peut pas être positif. Par contre, je trouve que mes camarades commentateurs sont d'une mauvaise foi absolument incroyable. Je prends l'exemple du Figaro. Vous lisez le Figaro le lendemain de l'émission, il n'a fait aucune annonce. C'est écrit, vous pourrez vérifier, c'est écrit en toutes lettres. Il n'a fait aucune annonce. Bon, on sait bien que c'est faux. On peut dire les annonces sont mauvaises. On peut dire les annonces ne suffisent pas. On peut dire on n'y croit pas. On peut dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas dire une contre-vérité de ce genre. Vous lisez dans Le Point un article « Hollande n'augmentera plus les impôts, ça va lui poser 1000 difficultés ». Mais s'il avait annoncé une augmentation des impôts, évidemment, Le Point aurait fait un éditorial indigné en disant c'est scandaleux. Enfin, les gens sont de mauvaise foi. C'est devenu irrationnel. Quoi. C'est devenu... On n'écoute pas ce qu'il dit.
Voilà.
On n'a même pas écouté ce qu'il dit. Par exemple, quand Hollande dit l'excès de pessimisme dans le pays a des mauvais effets sur la situation économique, je dis ça en substance. On exagère le dénigrement de la France, on en fait trop, et ça a de mauvais effets. Personne ne discute même l'argument. Alors que c'est assez vrai, me semble-t-il.
Christian Macarian.
Eh bien, Laurent Geoffrin décrit les symptômes sous la forme d'une critique, mais gardons tous les symptômes que vous venez d'évoquer et essayons de les synthétiser.
Les éditoriales ne sont pas censés être des symptômes, ils sont censés raisonner quand même.
Je suis d'accord, très bien, mais je suis tout à fait prêt à vous suivre, mais additionnons tout ce que vous venez de dire, n'en retranchons rien, n'y ajoutons rien, ça veut dire quoi ? Ben que François Hollande est devenu inaudible, puisqu'on ne l'entend plus quand il fait même des annonces. Et enfin, vous allez un peu vite, Laurent, si je peux me permettre, il a fait preuve à plusieurs reprises d'une vraie bonne foi quand, à une question d'Yves Calvi qui lui dit tout augmente, il lui dit non, ce qui baisse, c'est le déficit public, plus de 4% d'augmentation. J'appelle pas une diminution de l'augmentation une diminution.
Non, mais c'est une convention comptable
convention
tout le monde
comptable.
Admet. Donc,
à ma connaissance, les déficits publics continuent d'augmenter, ils n'ont pas été stabilisés et ils augmentent même plus qu'au début du mandat de François Hollande. Vous le savez parfaitement.
Oui, enfin, ils étaient plus forts avant, ils sont moins forts maintenant.
Oui,
c'est vrai.
Mais en mathématiques, ça, plus c'est plus. Donc on augmente encore les déficits, on ne les diminue pas.
Non, le déficit a diminué, c'est les dépenses.
C'est les dépenses, pardon.
Oui, cela étant, venir à la télévision en faisant si peu d'annonces de mesures, mis à part un contrat aidé pour les seniors au chômage, une extension du service civique, 15 000 emplois d'avenir déjà votés, des tablettes numériques dans tous les collèges, et allons-y, hein, pour les JO de 2024, avec si peu d'annonces, c'est quand même difficile mobiliser, d'intéresser.
Vous avez raison, mais il a décidé de ne pas changer de politique. Il a décidé de faire des concessions aux entreprises pour essayer de faire en sorte qu'elles embauchent un jour. Et donc, il est sur cette ligne-là. S'il avait changé de politique en faisant des annonces spectaculaires, vous auriez vu les éditoriaux partout. Ah, c'est bien la preuve qu'il s'était trompé puisqu'il change de politique. C'est le zigzag, on ne sait pas où on va. Les gens n'écoutent rien et ils sont contre, a priori. Les gens de droite, je comprends. Mais les gens de gauche, c'est un peu bizarre. Et troisièmement, surtout, les commentateurs. Quoi. Il a un autre argument. Il dit, voilà, on me demande de faire des réformes beaucoup plus brutales, mais moi, je défends un modèle, il appelle ça la République sociale, et donc je ne veux pas diminuer les prestations et je ne veux pas diminuer les dépenses publiques aussi vite qu'on me le demande. Ceux qui l'ont fait, l'Europe du Sud, sont dans une situation catastrophique. Qui discute cet argument ? Personne. Personne ne discute, ça n'existe même pas, alors que cet argument a une certaine pertinence. Est-ce qu'on veut vraiment diminuer de 150 milliards les dépenses publiques, comme le propose l'opposition ? Il faut le dire, ça. Je ne lis nulle part, mais les journaux de droite n'en parlent même pas. Les propositions de l'opposition ne sont même pas passées au crible du bon sens.
Christian Macrayan ?
Le point de vue de Laurent est tellement minoritaire qu'il devient très sympathique. On a envie de l'encourager.
J'étais sympathique au départ, non ?
C'est vrai, oui, je confirme.
Est-ce qu'on peut réduire les déficits ? C'est indispensable, a encore dit François Hollande, et faire une politique de gauche. C'est ça le problème, non, Laurent Geoffrin ?
Oui, c'est une question. Mais là aussi, il donne un argument. Il dit, voilà, regardez, les hausses d'impôts, c'est à 70%, ça touche les 20% les plus aisés. 70% des augmentations d'impôts ont été demandées, exigées des contribuables les plus aisés.
Par 20% des contribuables.
20%, oui, oui. C'est beaucoup. Bon. Enfin, 20%, c'est 80%, donc ça, on a eu beaucoup moins de hausses d'impôts. Bon, c'est un argument, il n'est pas forcément mauvais. Si on regarde le programme fiscal de l'opposition, c'est pas ça du tout. Hein. Il commence par supprimer l'impôt sur les grandes fortunes. On veut supprimer l'impôt sur les grandes fortunes ? Qu'on en discute au moins.
Autre événement de la semaine, encore un président en difficulté, Barack Obama et sa défaite électorale mardi. Les élections législatives de mi-mandat donnent la majorité aux républicains au Congrès américain. C'est la cohabitation avec le président démocrate. Pourtant, à la différence de François Hollande, Barack Obama, il a de bons résultats économiques, forte croissance aux USA, chômage très bas et il n'a pas convaincu. Pourquoi, Christian Macarian ?
Chômage très bas, il est à 6%, il a baissé, oui, c'est exact. Et surtout, le déficit public a été très bien maîtrisé. Hein. Il est passé en dessous de 3% du PIB.
Et
la croissance est très correcte, elle est même encourageante. Et ajoutons que toute l'Europe escompte. Paris sur la croissance américaine. Donc, on regarde ça tous avec beaucoup d'intérêt. Parce que je crois que tout ce qu'a fait Barack Obama est totalement illisible désormais. Il y a eu des avancées incontestables. Cet homme a soulevé beaucoup d'espoir. Il a entrepris beaucoup de réformes. Il a dû faire beaucoup de concessions en cours de route. Il s'est montré élitiste. Il n'a pas fait de concessions avec les congressmen démocrates, son propre camp, et encore moins avec les républicains. Il s'est montré assez distant, voire condescendant vis-à-vis du Congrès. Et ça l'a coupé beaucoup. Hein. On sait qu'il a une attitude élitiste presque aristocratique. C'est un homme qui a beaucoup de classe, tout le monde le sait. Mais il a aussi une sorte de supériorité intellectuelle qui fait qu'il n'entre pas dans les réalités quotidiennes des gens. Alors je crois que, pour résumer tout, ce que les citoyens américains lui reprochent, c'est malgré la croissance et les bons chiffres, ils se trouvent tous plus pauvres. Ouais. Aujourd'hui qu'à l'arrivée d'Obama lors de son premier mandat. C'est aussi bête que ça, et c'est sur ça qu'avec une sauvagerie incroyable, les républicains se jettent pour transformer la moindre élection en référendum anti-Obama.
Laurent Geoffrin ?
Tous les présidents qui étaient dans la situation d'Obama ont perdu ces élections-là, tous. Mm-hmm. Au bout de 6 ans, quand on est réélu, au bout de 2 ans de deuxième mandat, on prend une gamelle, quoi, pour parler vulgairement. Je crois qu'Obama souffre d'un autre déficit, c'est qu'il a déçu ses propres partisans. Parce qu'il avait un programme plutôt progressiste. Il n'a pas pu le mettre en œuvre, pratiquement, à cause de l'opposition du Congrès. Hein, c'est pas entièrement de sa faute, mais par exemple, ce qu'on appelle le Obamacare, ça a été réduit, ça a été beaucoup amoindri comme projet. Et donc, les gens attendaient qu'il y ait une sorte de sécurité sociale américaine. C'est pas exactement ce qu'il y a. En plus, il y a eu un manque de chance. Le jour où ils l'ont lancé, il y a eu un bug informatique incroyable, ce qui fait que les gens n'ont pas pu se connecter. Donc, c'était ridicule. Ou d'autres affaires comme le symbole de Guantanamo. Il a dit je ferme Guantanamo. Non, il ne l'a pas fermé. Donc, c'est toujours là.
Donc il
donne le sentiment d'avoir déçu des espoirs qui étaient ceux de la partie progressiste.
Donc, il a aussi des frondeurs comme François Hollande.
Dire, oui, mais la comparaison avec François Hollande.
Et il a en face de lui des républicains, mais qui sont absolument déchaînés, qui sont subventionné par des milliardaires extrêmement dispendieux, enfin qui est généreux avec eux. Et donc, c'est des campagnes hallucinantes depuis 6 ans qui n'arrêtent pas.
La comparaison avec François Hollande est assez intéressante, parce qu'il y a à la fois la montée d'une opposition de droite extrême. Hein. Ouais. Le Tea Party, c'est du populisme à la manière du Front National chez nous, même en beaucoup plus virulent que le Front National sur beaucoup de sujets. Et puis, il y a ce que Laurent vient d'évoquer, c'est-à-dire, comme François Hollande, une terrible liquéfaction de son camp, avec une nuance qui est de taille, c'est que en France, ce sont les socialistes qui ne respectent pas François Hollande et qui lui créent des difficultés, alors qu'aux États-Unis, c'est Obama qui a un peu piétiné les démocrates.
Le côté absence de leadership, hésitant, manque d'autorité, incapacité de prendre des décisions, l'indécision, Barack Obama et Hollande, ils ont des points communs ?
Je trouve que c'est injuste dans les deux cas. Ce qu'on reproche à Obama, c'est d'avoir une politique étrangère plus prudente que celle de son prédécesseur. Mais est-ce qu'on veut retourner à George Bush et à la politique extérieure des néoconservateurs qui a conduit les États-Unis à faire une guerre en Irak, qui est absolument désastreuse à tous égards et dont nous payons les conséquences aujourd'hui, tous les jours, en matière de terrorisme. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Non.
Christian Macarion.
Je suis tout à fait d'accord avec Laurent, mais il paye son absence de vision. C'est-à-dire se retirer d'Irak pour être obligé, 2 ans après, d'y revenir, c'est ingérable pour un homme, quel qu'il soit. Ça le met dans une contradiction insoutenable. Néanmoins, c'est ce que les États-Unis sont en train de faire, sans troupes au sol, mais on est obligé de réagir en Irak, on le voit bien.
Dernier point, on a commencé avec François Hollande. La une de l'Express, cette semaine, une photo de Marine Le Pen et ce titre, présidente en 2017, point d'interrogation, pourquoi le pire est possible ? Cette montée en puissance de la présidente du Front National s'explique-t-elle avant tout, Laurent Geoffrin, par la déception suscitée par François Hollande ?
Non, ce sont les facteurs fondamentaux. Il y a des phénomènes du même genre dans toute l'Europe, donc c'est pas lié seulement à la France. Mais effectivement, imaginons, soyons simples, un deuxième tour, Sarkozy, Le Pen. Hein, Sarkozy va être président de l'UMP, il veut se représenter. Imaginons qu'il passe le premier tour. Et les électeurs de gauche vont être... Ça va être difficile. Hein. Et j'entends même des gens qui disent, de toute façon, perdu pour perdu, autant laisser Le Pen gouverner, on verra bien.
Christian Macarion,
rapidement. Ce qui est frappant, c'est à quel point cette question du Front National est devenue un pivot de la vie politique française autour duquel tout s'articule, que ce soit à gauche ou à droite. C'est ça qui est désastreux. Mais je regrette, pour moi, elle exploite le vide, d'un côté comme de l'autre. Si l'espace était occupé un peu différemment, et notamment par le gouvernement à travers des réformes engagées courageusement, on n'en serait pas là, et l'opposition ne serait pas à cavaler derrière le langage et les thèmes de Marine Le Pen comme elle le fait.
Christian Macarion, Laurent Geoffrin, merci beaucoup.